Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, année 0. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Qu'il se réveille à le dégoût de vivre. Il a comme une douleur à la poitrine et la gorge serrée. C'est comme s'il revivait chaque jour sa naissance, mais sans personne pour l'aider à entrer dans la vie. Pour s'endormir, il retrouve la position du fœtus. Dans le plus profond sommeil, il se met même le pouce à la bouche. Gilles aime dormir. Et se dit que c'est la chose la plus agréable qui soit. Le sommeil semble nous envelopper pour nous protéger du monde. Quelquefois, en se réveillant, il a tellement mal que cela lui fait froncer les sourcils. Puis, dès que la douleur est passée, il sent l'odeur de son corps à l'intérieur des draps. Sortir du lit, sortir de soi. Quelquefois, pour se donner du courage, il met sa main dans son slip blanc et se masturbe. Puis, après s'être nettoyé avec son mouchoir, il sort du lit. La pièce est dans la demi-pénombre. Le jour passe par les persiennes des volets de la fenêtre. Gilles, chaque fois qu'il se lève et voit sa chambre, se sent dégoûté. Il n'aime pas cette pièce qu'il trouve lugubre. Elle n'est pas très grande, à haut mur du papier à fleurs grossier, un lit à une place, une armoire à une porte, une chaise, un petit bureau. Les meubles sont en formica imitation bois. À terre, sur le sol, recouvert de PVC, son cartable noir et sa guitare sèche. Gilles met ses pantoufles. Ce sort de sa chambre en slip pour aller dans la salle d'eau. Dans la salle d'eau, il enlève du bac à douche un sèche-linge portable pour prendre sa douche. Il quitte son slip, entre dans le bac et se douche. Gilles est grand, mince, les cheveux bruns, les traits du visage très fins, un peu enfant. Sa peau est légèrement hâlée et lisse. Il a juste des poils aux parties sexuelles. Après avoir pris sa douche, habillé d'un jean cendre et d'un pull noir, il va à la cuisine. Là, il retrouve ses parents qui prennent le petit déjeuner. La cuisine est tout en longueur et pas très grande. Les meubles sont en formica blanc. Le père, Jules, est un petit homme aux cheveux grisonnants. Il est en maillot de corps et pantalon. La mère, Simone, est un peu plus grande que son mari. Elle est mince, les cheveux frisés courts. Elle a le visage sec et porte par-dessus sa combinaison une blouse bleue à pois blancs. Gilles s'assoit à côté d'eux. Il prend la cafetière et verse le café dans un grand bol blanc. Sa mère lui demande
« T'as acheté ton timbre pour le mois ?»«
Oui. » Gilles, après avoir bu son café, prend une tranche de pain et se lève. « À ce soir !» son père lui dit
« Ne rentre pas trop tard !»
Gilles sort de la cuisine. Va dans sa chambre, prend son cartable, et sur une chaise, sa gabardine et son foulard noir. Une fois habillé, il sort de l'appartement. Gilles et ses parents habitent une HLM dans les quartiers des Minguettes, à côté de la gare routière et de la clinique La Roseraie. Chaque matin, lorsqu'il va au cours, il prend le 36 pour aller à son lycée qui se trouve boulevard des États-Unis à Lyon 7e. Gilles n'aime pas les Minguettes, ni le trajet qui le mène à son lycée. Il trouve la banlieue triste, monotone. Il s'est rendu compte que les gens qui habitaient dans ces endroits, on les reconnaissait tout de suite par leur tenue et leur maintien. Gilles n'a pas d'amis dans son quartier. Ses relations, il les fait au cours de concert. Arrivé au lycée, un pion lui dit que le proviseur désire le voir. Gilles frappe à la porte du proviseur. Il entend une voix qui lui dit d'entrer. Avec un peu d'appréhension, il entre. Le proviseur est à son bureau. C'est un homme qui semble petit, maigre, le regard sec et chauve. Il porte un costume gris.
Asseyez-vous, Gilles.
C'est ce qu'il fait.
Voilà, je vous ai fait venir, c'est à cause de vos notes qui sont catastrophiques. La plupart du temps, vous ne faites pas vos devoirs. Vos professeurs disent que vous êtes toujours dans la lune. Ceci ne peut plus durer. Vous perdez votre temps avec nous. Ce que je vous conseille, c'est de quitter le lycée et de chercher un emploi.
Mais, monsieur le proviseur, je suis en terminale. Je veux finir mon année scolaire et passer mon bac.
Le proviseur lève les bras en l'air.
Je veux bien vous donner votre chance, mais il faudra travailler dur les deux derniers trimestres qui vous restent.
Je vous le promets.
En quittant le proviseur, Gilles se dit qu'il faut qu'il reste au lycée, car pour trouver du travail, cela est très difficile. Avec tous les chômeurs et sans diplôme, je dois rester au lycée, même si le lycée ne me plaît pas. À la récréation, Gilles retrouve des copains de son âge, deux garçons qui jouent les durs et parlent devant Gilles de leur expérience sexuelle. Gilles, avec eux, joue celui qui s'y connaît et qui a eu des aventures. Il cache son trouble par ses airs sous-entendus. En réalité, il est vierge. Il cache son ignorance par son côté sérieux et entendu. Il aimerait bien avoir des aventures, mais les filles qui l'entourent lui font peur. À cause de leur tenue, leur parler vulgaire, leur rire idiot ou moqueur. Pour Gilles, elle manque de fragilité et de féminité. À 18h, Gilles entre chez lui. Ses parents ne sont pas encore entrés. Son père est magasinier chez un quincaillier et sa mère fait des ménages. Il se déshabille dans sa chambre. Pose son cartable à terre. Puis, il va à la cuisine prendre du pain et un morceau de chocolat. Après avoir mangé, il retourne à sa chambre. Prend sa guitare à terre et se met sur son lit. C'est la chose qu'il aime le mieux. Il lui arrive même de temps en temps de composer. lorsque ses parents arrivent, il est toujours dans sa chambre à jouer. Il entend son père qui grogne.
Avec sa guitare, il va nous casser les oreilles. Il ferait mieux de travailler, ce feignant. Il va encore nous empêcher de regarder la télé.
Sa mère dit.
Il ferait mieux de regarder avec nous la télé au lieu de rester enfermé dans sa chambre. Ce soir, c'est pas mal. C'est sacrée soirée.
Pour ne pas les gêner, il a arrêté de jouer. Cela agace et énerve Gilles d'entendre ses parents parler ainsi. Il n'aime pas qu'ils le traitent de feignant. Et puis, il se sent pas comme eux. Ce qu'il aime, il ne le supporte pas. Il se lève pour poser sa guitare à terre contre le mur. Il retourne se coucher dans la position du fœtus. Il aimerait dormir, tout oublier. Malheureusement, cela est impossible avec le bruit de la télévision. J'aimerais être loin, loin, ne rien voir, ne rien entendre. Gilles, dans le 36, est assis à face d'une jeune fille blonde au visage très doux. Elle porte un manteau rouge. Il se sent attiré par cette jeune fille qui semble ne pas être comme les autres. Le visage fermé par la timidité, il ose à peine la regarder. Si à 19 ans, je ne suis pas capable de draguer une fille, c'est que je suis un bon à rien, un zéro. Que dois-je faire? Lui dire pour qu'elle puisse comprendre? Il décide de lui sourire. C'est ce qu'il fait. Malheureusement, la fille se met à rire d'une façon nerveuse, comme une idiote. Cela déconcerte et irrite Gilles, qui de colère change de place. Il soupire et se dit que les filles au lycée se comportent aussi comme cette fille. Dès qu'elles voient un garçon qui s'intéresse à elles, elles se mettent à glousser et rire pour un rien. Il a remarqué aussi, c'est qu'elles sont d'une grossièreté masculine. Ce genre de comportement ne me plaît pas. Le temps passe et Gilles n'arrive pas à se concentrer sur ses études. Les cours ne l'intéressent pas et il passe la plupart du temps à rêver ou à faire de la musique. Samedi matin, où il n'avait pas cours, il entend de sa chambre sa mère qui grogne sur ses vêtements.
« Qu'est-ce qui peut salir ses vêtements? Ce jean, pull, chaussettes et ses slips. Ses slips, il pourrait bien faire attention tout de même. C'est pas un gamin pour les salir comme cela. »
Gilles a envie de lui crier. « C'est justement parce que je ne suis plus un gamin. » Attends son père.
« Il ne fait rien. Il est toujours couché avec sa guitare. Si ses notes sont mauvaises, il arrêtera ses études. » Thank you.
Gilles est nerveux, il filme beaucoup. Et de temps en temps, pour se détendre, après les cours, il va chez un de ses copains, un dénommé Didier, qui habite le premier arrondissement. Le jeune homme, qui a 2 ans de plus que Gilles, est grand, maigre, il est habillé tout de noir. Là, dans une pièce d'un vieil immeuble tout délabré, assis à terre, ils écoutent des disques et fument un peu de drogue.
Mais s'intéresse-t-on à son sort? Dans un déclin d'alcool et d'or, Monsieur Deosanski est mort. Quel était l'envers du décor? Qui a eu raison, a eu tort? La presse, son avocat, les porcs, oui, David Deosanski est mort.
Didier dit en lui tendant la drogue à fumer. Nos parents, c'était la cigarette. Maintenant, nous, c'est la drogue. C'est la même chose que pour les cigarettes qui étaient interdites du temps de nos parents. Didier soupire et dit « De toute façon, le monde est pourri. Si je m'en sors pas, je demanderai à m'engager à aller au golf. Là, je gagnerai 10 000 francs par mois. Mon frère l'a fait. Dans ce monde pourri, c'est la seule façon de s'en sortir. Ou tu voles. »
« Ouais, tu as raison. Ce monde est pourri. »
Gilles tourne en rond dans sa chambre. Il aimerait aller voir la MJC Doulin, le concert du groupe Area Mildred. Mais il n'a plus d'argent. Il a tout dépensé son mois. Tant pis, je le leur demande. Il sort de sa chambre. Et retrouve ses parents dans la salle à manger qui regardent la télé. Il s'approche d'eux, housse de honte. J'aimerais sortir ce soir. Son père, tout en regardant la télé, lui dit
« Eh bien ça, on t'a jamais empêché de sortir. »
« Oui, mais j'aimerais aller à la MJC Doulin ce soir, voir un groupe. Je n'ai plus d'argent. »
Le père regarde toujours la télé.
« Tu n'as pas eu ton mois ?»«
Si. »«
Et tu n'as plus d'un sou ?»
Le père regarde sa mère, soupire, se lève, sort prendre sur le buffet son porte-monnaie, en sort un billet, le temps à Gilles qui va le prendre.
« Ne dépense pas tant, fume moins, travaille un peu plus. » Et si tu veux plus d'argent, arrête l'école et va travailler ou engage-toi. Les engagés qui sont au golf gagnent 10 000 francs. C'est pas mal, non? C'est mieux que d'être au tuc, chômeur ou smigard, non?
Gilles sort de la pièce sans rien dire. Il se sent humilié et aimerait n'avoir rien à demander à sa famille. Gilles a de plus en plus le cafard et semble tourner en rond dans un monde lugubre, sans amour, sans amis, seul, toujours seul. Les copains, il ne se sent pas bien avec eux. Il est obligé de jouer un rôle. Il ne pense qu'à dépenser, jouer avec les filles. Ils n'ont rien de profond et on ne peut pas compter sur eux pour des choses sérieuses ou un conseil. Les filles,
Il aimerait bien en trouver une qui ne soit pas comme les autres, avec qui il ne se sente pas obligé de jouer un rôle. Ah, aimer, être aimé. Un jour, au lycée, dans la foule, il voit une jeune fille qui semble plus sage, plus douce que les autres. Elle est blonde, fine et a un visage très doux. Un jour, à la sortie d'un cours, elle fait tomber machinalement son stylo qu'elle tenait à la main. Il se baisse et le lui donne. « Merci. Je m'appelle Gilles. » Il a dit cela comme ça, sans y penser, et est tout surpris que ça ait été si simple. « Et moi, Martine ?» Elle lui sourit, il lui répond par un sourire. Il lui dit « On va boire un coca ?»« Oui ?» Et ils vont au café qui est en face du lycée. Ils s'assoivent à une table et tout en buvant leur coca, ils font connaissance. Gilles est heureux, il se sent bien avec Martine. Souvent après les cours, ils vont faire un tour ensemble dans le quartier. Gilles lui parle de ses problèmes, de ce qu'il aime, elle aussi. Au fur et à mesure que le temps passe, Gilles se met à aimer la fille et pense qu'elle aussi l'aime. Il n'ose pas l'embrasser ni la toucher, mais il la dévore des yeux. Un après-midi qu'ils avaient fini leur cours plus tôt, Martine lui dit « Si tu veux, on passe un moment chez moi. Mes parents sont absents. » Gilles surpris et tout heureux, il accepte. Ils vont rue de Brest. Un vieil immeuble cossu. Elle le fait rentrer chez elle. Elle le mène à sa chambre. Une pièce tout en longueur, un lit, une armoire, une chaise. Les meubles sont en bois plaqué blanc. Elle s'allonge sur le lit.
Viens.
Il y va. Il a chaud et un peu honte. Il s'allonge à côté d'elle. Elle lui sourit, enlève son pull. Elle lui dit
« Viens, embrasse-moi. »
Il se penche vers elle et essaye de l'embrasser le mieux possible. C'est la première fois qu'il embrasse une fille. Ensuite, elle se dégage.
« Attends. »
Elle se déshabille. Elle se met sous les draps. Gilles tremble de tout son corps. Ce n'est pas d'envie, mais de peur.
« Fais-en autant. »
Il se déshabille. Se met sous les draps. Se penche vers la fille.
Qu'est-ce que tu fais?
Mais tu veux bien que j'essaie de...
Ah, c'est pas là. C'est pas là non plus.
Mais alors, c'est où?
Là, donne-moi ta main.
Ah, c'est juste à côté de tes fesses? Excuse-moi.
Oui, comme tout le monde.
Ah, c'est une surprise.
Chut, tais-toi.
Plus tard, en sortant de chez Martine, il est tout heureux et fier. J'ai fait l'amour pour la première fois avec une fille qui m'aime. J'ai fait l'amour. Il n'a pas envie de rentrer chez lui et décide de marcher. Marche pendant 2 heures, la tête en feu. Il se sent bien, bien. Le monde lui semble beau, l'avenir moins bouché. En entrant chez ses parents, la tension descend un peu. La vue de son univers le prend comme une gifle. Désormais, lorsqu'il entend ses copains parler de filles, il les trouve gosses et se demande s'ils sont pas un peu plus sots. Le temps passe. Il voit toujours Martine. Il la raccompagne chez elle, et quelquefois, elle le fait rentrer chez elle. Il est devenu moins gauche en amour. Comme les examens approchent, pour eux deux, ils se voient un peu moins souvent. Mais cela ne l'attriste pas trop, car il sait qu'ils se reverront souvent après. Gilles prépare ses examens le mieux qu'il peut. Mais il a pris un tel retard qu'il faudra un miracle pour qu'il les réussisse. Malgré tout, il a bon moral. Martine, l'aventure de Martine l'a remonté à bloc. Les menaces que lui disent ses parents, s'il rate son bac, ne le touchent pas trop.
Si tu rates ton bac, un conseil, engage-toi,
lui dit son père. Enfin, le premier jour du bac arrive. Il est inquiet et anxieux malgré tout. Cela fait 15 jours qu'il n'a pas vu Martine. Il aurait aimé qu'il lui souhaite bonne chance. Dès le premier jour, il sait qu'il ne l'aura pas. Et puis, il est énervé par ses parents qui lui demandent constamment comment ça s'est passé. L'attente des résultats a été très pénible. Il sait que c'est perdu. Et pas de Martine pour l'aider à surmonter le choc. Mais malgré tout, il croit encore au miracle. Lorsqu'il va voir les résultats, son corps bat très fort. Qui sait qu'il a échoué malgré qu'il s'y attendait. Il a l'impression que tout s'effondre. Il a envie de pleurer, d'hurler sa détresse et surtout de se blottir contre Martine. Martine. Il la cherche au milieu des élèves qui regardent les résultats. Enfin, il la voit. Elle ne l'a pas vue. Elle parle à une copine et semble satisfaite. Elle a dû réussir. Gilles a les larmes aux yeux en la voyant. Son rayon de soleil, le seul de sa vie. Il s'avance vers elle. Mais pris par la foule, il arrive près d'elle par derrière. et toujours avec sa copine. Juste au moment où il va lui faire une tape sur l'épaule pour qu'elle puisse se retourner de son côté, il entend qu'elle dit à sa copine « Gilles, pour moi, tu sais, c'est comme les autres. C'est un gosse. Avant 30 ans, les hommes, tu sais. » Cette phrase l'anéantit. Il est comme paralysé. Tout s'effondre. Puis, honteux, il se sauve en courant. Loin de la foule. Loin, loin. Ne voir personne. Personne. Cours, cours. Au hasard, la tête en feu, mais vide. Après une heure d'une course folle, il s'arrête, se trouve sur les quais de Saône, descend vers la berge, fatigué, épuisé, pâle. Il s'assoit à terre. Reste un moment sans réfléchir. Puis des phrases lui reviennent.
Feignant, bon à rien, passe ton temps dans sa chambre à jouer de la guitare, il ferait mieux de travailler. Travailler, engage-toi, engage-toi, 10 000, 10 000, tu devrais le faire.
Ce n'est qu'un gosse, un gosse, un gosse.
Tout tourne dans la tête de Gilles, tout tourne. Malgré le beau temps, il a froid. Et puis cette eau qui l'attire, 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 l'attire. Tourne, tourne, tout tourne, tout tourne. L'attire, l'attire. À 10 heures du matin, dans son salon cossu, Charles lit son courrier. C'est un homme grand, mince, les cheveux grisonnants. Il porte un costume gris. L'on sonne à la porte. Il va ouvrir.
Quelle bonne surprise! Gilles, entre!
Gilles entre. Charles ferme la porte.
Bonjour mon oncle.
Bonjour mon petit. Viens, allons au salon.
Arrivé au salon, il s'assoit sur un canapé.
Voilà, je suis venu te dire que je vais bientôt partir. Je me suis engagé.
Pourquoi ?
J'ai raté mes examens et puis mes parents, tous me disent que c'est la meilleure solution pour moi. Que si je peux aller au golf, je gagnerai 10 000 francs. C'est mieux que le chômage, les TUC ou le SMIG. C'est le seul avenir sérieux que l'on m'a proposé. S'il n'y a que l'argent qui compte dans cette vie. Charles lui prend les mains.
Tu n'aurais pas dû. C'est une honte de donner comme seul avenir pour les jeunes, l'armée, la guerre. Et dire que nous vivons dans un pays dirigé par des socialistes. Quelle honte!
Il serre la main de Gilles et lui dit
« Moi, je t'aime pour ce que tu es, avec ou sans diplôme. Pauvre Gilles, j'aurais pu t'aider, Mais il est trop tard maintenant, puisque tu as signé. Pourquoi n'es-tu pas passé me voir avant de t'engager ?
Je ne sais pas. Je me sentais tellement seul.
Je t'aime, tu sais. Tiens-moi au courant de ce que tu deviens. Et après l'armée, nous verrons.
Gilles sait maintenant qu'il a une personne qu'il aime.
Radio Canu vous a présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Année Zéro. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.